Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Mélomanie et de ce nouveau numéro de votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Et cette fois-ci, c'est vraiment reparti tambour battant, les concerts se succèdent et parfois se chevauchent. Il y a longtemps que nous n'avions pas été confrontés au dilemme consistant à choisir entre deux événements programmés le même soir. C'est arrivé mardi dernier, jour où se produisait à 20h à la Halle au Grain, le grand pianiste russe Danil Trifonov, une soirée du cycle Les Grands Interprètes, alors que l'ensemble Masque était en concert au Temple du Salin à la même heure, dans le cadre de la saison des Arts Renaissants. Mais il y a eu d'autres concerts la semaine passée, nous allons y revenir avec le fidèle parmi les fidèles de cette émission, Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur musical pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Nous avons le plaisir de recevoir ensemble un autre habitué de Mélomanie, dont l'érudition et la passion nous régalent à chacune de ses visites, Michel Brun, fondateur et directeur artistique de l'ensemble Baroque de Toulouse et du festival Passe ton bac d'abord. Michel est l'invité de cette émission à l'occasion de la parution prochaine du nouveau CD de l'ensemble Baroque, Vivaldi entre ombre et lumière. Nous allons l'évoquer avec Michel en seconde partie d'émission, de même que son livre Selon Bach, consacré à son compositeur préféré. Mais avant cela, détour par l'actualité musicale récente avec notre rubrique Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Bonjour et bienvenue à tous les deux aussi. Heureux de vous retrouver dans ce studio. Nous allons revenir pour commencer sur le concert de l'Orchestre National du Capitole donné samedi à la Halle au Grain, le dernier de la saison pour l'ensemble symphonique toulousain. Tugan Sokiev était à la baguette pour diriger un programme intitulé « Russie méconnue », entièrement russe donc, trois œuvres mais deux compositeurs et un soliste invité qui porte un nom illustre, Serge Chauzy, mais un nom illustre dans le monde des lettres, et ce musicien joue d'un instrument qui a rarement la vedette dans les concerts.
En effet, puisqu'il s'agit de Xavier Demestre, qui a une grande hérédité, donc, et qui est l'un des harpistes vedettes du monde entier actuellement. Il a été donc premier harpiste de la Philharmonie de Vienne, ce qui est quand même une belle référence.
Oui, ça classe un musicien.
Mais maintenant, il est libre, donc il vit une vie de soliste, et bon, il parcourt le monde, et il était à Toulouse. À ma connaissance, pour la première fois.
Je n'ai jamais entendu parler de Xavier Demestre à Toulouse, mais bon, vous suivez les concerts depuis plus longtemps que moi.
Hein. Non, mais vraiment, et c'était une révélation, hein, absolument. Je ne pensais pas que la harpe pouvait être aussi virtuose et variée, lumineuse et musicale que ce soir-là. Vraiment.
Oui, alors, ce n'est pas un jeune musicien, il a 47 ans, hein,
c'est absolument.
La première fois qu'on le voyait à Toulouse.
Oui.
Alors, qu'est-ce qu'il a joué? Parce que les concertos pour harpe, ça ne court pas les rues. Hein.
Non, mais il a joué un de ceux qui sont le moins joués, d'ailleurs, un concerto de Reinhold Glier. Alors, je vais essayer de vous donner le nom complet parce que c'est Reinhold Moritzevich Glier. Il est d'origine allemande, d'où son nom, hein, Reinhold, son
russe.
Prénom. Et il a composé ce concerto en 1938. Donc, c'est à l'époque où Prokofiev et Shostakovich...
C'est un contemporain exact de ces deux compositeurs.
Tout à fait, tout
à fait. Il est mort en 1956, je crois, Reinhold Glier.
Alors, c'est un musicien dont le style n'a rien à voir avec celui de ses collègues, hein. C'est un style apaisé, classique. Le romantisme russe s'y exprime beaucoup, mais c'est musical, c'est bien écrit, et c'est une belle musique. Donc, il avait écrit ce concerto pour la soliste de l'orchestre du Bolchoï, qui devait être une sacrée virtuose, parce que l'écriture de ce concerto est ahurissante de virtuosité. Donc, la révélation a été celle de ce soliste qui, non seulement déploie une virtuosité ahurissante, hein, mais est très musicien, en ce sens que je ne pensais pas qu'on pouvait faire autant de nuances avec la harpe. Bon, c'est peut-être pas très gentil pour nos collègues harpistes, mais vraiment, c'est tout à fait impressionnant. Hein. Son niveau technique et musical, on peut dire, est exceptionnel. Notamment dans le premier mouvement, il y a une cadence... Mais alors, hallucinante, hein, une cadence. Alors, je ne sais pas quelle est sa contribution à cette cadence, puisque le soliste a toute liberté pour agrémenter...
C'est peut-être sa cadence.
Les cadences écrites par les compositeurs. Mais là, c'était un feu d'artifice. Il a été magnifiquement accompagné par l'orchestre, qui était évidemment très bien dosé par Tugan Sokiev. C'est important, parce que la harpe n'est pas quand même un instrument très sonore. Hein,
ah oui, il ne faut pas
intense.
Que l'orchestre couvre le son de la harpe.
Et justement, il savait se glisser dans le tutti orchestral et en sortir lorsqu'il le fallait. Ça a été un très beau moment. Il a eu un succès fou. Et donc, il est revenu pour donner un bis. Et en bis, il a donné une œuvre dont j'ignorais le nom du compositeur. Depuis, grâce à Eric, je sais maintenant qu'il s'agit d'un Belge qui s'appelle Félix Godefroy et qui était surnommé le Paganini de la harpe. Oui, ça en dit grand-chose. Et il s'agit d'une série de variations sur le très célèbre thème du Carnaval de Venise. Et là, vraiment, la harpe, c'est impressionnant. Hein, parce que la harpe devient un instrument polyphonique. Hein, oui. Donc, c'est vraiment une révélation.
Alors, il y avait deux autres œuvres au programme, je vous l'ai dit, mais du même compositeur, Borodine en l'occurrence.
Borodine. Alors, c'était un concert, bon, je crois que je l'ai déjà dit la dernière fois, c'est un concert typique des concerts du XXe siècle, avec une ouverture, un concerto, une symphonie. Hein, c'était classique et ça l'est resté pour ce concert. Donc, l'ouverture et la symphonie étaient donc signées d'Alexandre Borodine, un compositeur dans lequel Tugan Sokiev est très à l'aise, évidemment.
Voilà, il est chez lui, oui.
Il connaît ça comme ça coule dans ses veines. Hein. Donc, il y avait d'abord l'ouverture du Prince Igor. Alors, du Prince Igor, on connaît surtout les danses polovciennes. Hein. Mais l'ouverture, on
oui,
l'entend pas très souvent.
Pas si sinon, souvent. Je mets ça en concert, sauf quand l'opéra est donné.
Quand l'opéra est donné, oui. Eh ben, c'est une très belle pièce symphonique, et surtout dirigée et jouée par l'orchestre galvanisé, carrément galvanisé, avec cette intensité incroyable des cordes, comme Tugan Sokiev l'a forgé, on peut dire, hein, parce qu'il a vraiment renouvelé complètement le jeu des cordes, et avec quelques solos magnifiques, et on sait qu'on a de très bons musiciens à l'Orchestre National du Capitole, notamment il y a un splendide solo de cor qui reprend l'air principal du héros et qui était joué la partie bohoké, qui était une vraie merveille, donc une très belle ouverture.
Et donc l'autre œuvre, c'était la symphonie numéro 2.
Qui
est exactement contemporaine de la composition du Prince Igor. Il y a des liens d'ailleurs entre ces deux.
Oui,
donc c'était pas innocent de les programmer dans la même soirée.
Et d'ailleurs, c'est une symphonie sous-titrée épique.
Oui.
On voit pourquoi. Hein,
et c'est Borodine lui-même qui. Vraiment le compositeur lui-même qui l'a indiqué.
Oui, oui, absolument. Alors, cette œuvre est parcourue par une espèce de thème obsessionnel qui parcourt absolument tout, du début à la fin. Et vraiment, là, ça avait un relief magnifique, avec un andante poétique, très beau, avec là aussi des solos, un solo corps de nouveau à la clarinette, et là, avec David Minetti, on sait qu'on a un grand, très grand clarinettiste, et avec un choix des tempi qui est vraiment, bon, ça c'est typique de Tugan Sokiev, et avec un final alors qui s'enchaîne avec le troisième mouvement et qui débouche sur une espèce de vitalité qui conquiert absolument tous les suffrages du public, inutile de vous le dire. Alors à la fin de cette exécution, donc qui terminait le concert, je voudrais noter quand même que les musiciens, quand Tugan Sokiev leur a dit de se lever, ont refusé pour applaudir leur directeur. C'est une chose assez rare. Donc, ils étaient vraiment très contents du travail accompli dans cette symphonie et dans tout ce concert.
Et puis, c'était le dernier concert de la saison.
En plus. Donc, il y a eu vraiment un hommage à Tugan Sokiev de la part de ses musiciens.
Alors, Xavier Demestre a donc joué en bis Carnaval de Venise, composition du harpiste et compositeur belge Félix Godefroy, comme l'a rappelé Serge Chosy. C'est une pièce qu'il avait enregistrée il y a quelques années, et comme nous n'avons pas souvent l'occasion d'entendre de la harpe dans cette émission, je vous propose d'en écouter un extrait sous les doigts de Xavier Demestre. Thank you. là, ce n'était pas un voyage autour de ma chambre, c'était un voyage autour de ma harpe par Xavier Demestre avec cet extrait du Carnaval de Venise, pièce du compositeur belge Félix Godefroy, que Xavier Demestre a joué en bis samedi dernier à la Lograin. Et il faudra maintenant attendre la rentrée pour retrouver l'Orchestre National du Capitole à Toulouse. Je rappelle que la saison 21-22 a été dévoilée et que vous pouvez consulter la programmation et vous abonner dès maintenant en ligne en vous connectant au site de l'orchestre www.onct.toulouse.fr. Le lendemain de ce concert de l'Orchestre National du Capitole avait lieu à la Chapelle des Carmélites de Toulouse, dimanche 13 juin, le premier rendez-vous de musique en dialogue aux Carmélites. Nous vous l'avions présenté la semaine dernière lorsque nous avons reçu Catherine Kaufmann-Saint-Martin, fondatrice et directrice artistique de cette saison de concert-lecture. Celui-ci était consacré aux fables de La Fontaine, leur célèbre auteur étant le fil conducteur de la programmation puisqu'on fête en 2021 les 400 ans de sa naissance. Sur scène, la violoniste Clara Cernat et le pianiste et compositeur Thierry Huillet, associé au comédien et récitant Daniel Alm. Serge, nous avons assisté tous les deux à ce concert, mais pas à la même heure, hein, puisqu'il y avait une séance à 11h et une autre à 16h. Qu'est-ce que vous avez pensé des musiques composées par Thierry Huillet sur cette fable de La Fontaine et de ce spectacle en général qui était illustré, précisons-le, par la projection de gravure de Gustave Doré.
Ah oui,
c'est... Et ça a son importance. On va vous expliquer pourquoi.
Tout à fait, puisque c'était un peu La Fontaine, ses fables, sa musique et ses images. Donc on avait vraiment trois raisons de se réjouir d'assister à ce concert, qui était très intelligemment mené, pour lequel Thierry Huillier avait enregistré déjà il y a quelques années ses compositions autour de sept des fables de La Fontaine, certaines très célèbres, certaines un peu moins. Moi, j'avoue que j'ai eu du mal à me souvenir.
Le lion et le moucheron, c'est pas la plus connue.
Ah non, le lion et le moucheron, j'avais complètement oublié. Même un peu les grenouilles qui se cherchent un roi.
C'est... Oui, les grenouilles qui demandent un roi.
Qui demandent un roi, plutôt. Oui,
c'est pas ce qu'on connaît le mieux, vrai. Bon, après, il y avait la cigale et la fourmi, c'est la première.
La cigale et la fourmi, la première. Oui, donc ça va.
Le loup et l'agneau. Le loup et l'agneau.
Tout ça, ça va. Alors, il faudrait préciser quand même que en tout cas, le concert de l'après-midi auquel j'ai assisté, mais Eric, peut-être ce matin c'était pareil, il y avait pas mal d'enfants dans l'assistance.
Ce matin, il y en avait beaucoup.
Donc, attirés par le sujet. Quoi,
le concert idéal pour y aller en famille, y compris avec des tout-petits, enfants quand même qui sont en âge de comprendre. Mais...
Oui, des petits qui n'avaient pas besoin de porter le masque en particulier. Heureux petits. Donc, intéressant. La musique de Thierry Huillier est une musique contemporaine. Alors, c'est amusant parce que Thierry a dit, bon, la musique que vous allez entendre est contemporaine, puisque vous êtes là, je pense que vous n'allez pas repartir, a-t-il dit. Certains sont un peu rebutés par certains aspects de la musique.
Oui, mais c'est une musique contemporaine.
Ah, mais lui, c'est une musique tonale, une musique très riche, très imaginative, d'ailleurs, dont il a dévoilé
quelques secrets
de fabrication, en particulier Gustave Doré, dont il est un fanatique, apparemment.
Ah oui, il collectionne tous les ouvrages, les éditions originales, des gravures, des illustrations, des peintures de Gustave Doré. Et il a bien raison, parce que c'est un artiste, moi, que je trouve exceptionnel.
Oui, formidable.
Admirable, et notamment ses illustrations des fables. On connaît les illustrations du Don Quichotte aussi. Alors, les fables de La Fontaine, c'est quelque chose. Et on avait la chance de les voir.
Oui, tout à fait.
C'est dans illustrer les œuvres.
Dans certaines fables, d'ailleurs, au lieu d'animaux, Doré a carrément dessiné des humains à la place. Oui. Donc, vraiment intéressant. Alors, il a expliqué certains secrets de fabrication, la cuisine, comme il l'a dit, avec notamment, quand on s'appelle Doré, évidemment, la musique.
On l'avait bien repéré, ça, dès le début, Doré.
Oui. Alors, l'intérêt et l'originalité de toute cette séquence, c'est que les fables elles-mêmes ne sont pas chantées, évidemment. Elles sont déclamées. Mais elles ne sont pas déclamées en dehors de la musique. Elles sont déclamées sur la musique. Et donc, c'est une pratique qui était très courante au 19e siècle, qu'on appelait le mélodrame, en quelque sorte. Donc, c'est toute une série de mélodrames sur les fables donc, de La Fontaine, les sept fables en question, et les projections des tableaux et des gravures de Gustave Doré. Alors, tout ceci commence par une introduction musicale très belle, très expressive, mais très dramatique d'ailleurs, puisqu'il n'a pas hésité à souligner le caractère dramatique de certaines de ses fables.
Mais presque toutes, c'est toujours cruel. Cruel.
Oui. Ah oui, bon, oui.
Pour l'humanité.
Oui, exactement. Et ça commence par La Cigale et la Fourmi, qui est d'une cruauté absolue. Puis il illustre la danse supposée de la cigale par des traits pianistiques tout à fait amusants. Vraiment, c'était un grand moment. Et puis ensuite, donc, il y a eu Le Rat des Villes et Le Rat des Champs. Ça aussi, on se souvient. Mais Mais avec la morale, j'avoue que j'avais oublié le contenu de la morale. C'est très particulier.
Bah, souvent, c'est un peu diffus, les souvenirs qu'on en a. On se rappelle de courts passages qui sont passés dans le langage courant. C'est le cas, par exemple, du loup et l'agneau. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère, c'est dans le loup et l'agneau.
Oui,
on l'a oublié, ça,
la plupart du temps. Et puis, il y avait le chêne et le roseau. Et dans le chêne et le roseau...
pas, ça vient de là.
Et alors, Thierry Huillier, là, pour cette fable, il a conçu un déploiement impressionnant qui illustre l'orage. L'orage, c'est un déchaînement absolu. Il a d'ailleurs réservé pour sa collègue et épouse, violoniste Clara Tchernat, et il lui a réservé des traits d'une virtuosité incroyable. D'ailleurs, elle a avoué qu'elle y en a voulu un peu de lui avoir écrit.
Parce que c'était pas facile pour elle, apparemment,
au départ. Très difficile. Et puis ensuite, donc, il y a eu le lion et le moucheron. Et puis, les deux coqs.
C'est très cruel pour les hommes, les deux coqs.
Voilà, oui. Et puis, les grenouilles qui demandent un roi, donc ils concluent la liste. Alors,
là, ils ont insisté sur l'actualité, vraiment, de cette fable.
Ah, mais tout à fait. C'est une actualité politique complète, là. avec ce final incroyable. Donc, très, très, très bien, vraiment.
Un mot, quand même, sur le récitant, parce qu'on l'a... je l'ai cité,
Oui, très bien, qu'il dit ses textes, qui, d'ailleurs, sont projetés en même temps que les gravures, pour qu'on puisse bien saisir, au cas où l'acoustique, quelquefois,
comédien qui a belle voix grave, donc ça,
belle voix,
ça passe très bien.
Sobre, il n'en rajoute pas. C'est vraiment une belle, belle diction et qui s'est achevée alors par un grand succès, évidemment, et puis par le retour des interprètes qui tenaient à célébrer d'autres anniversaires, en particulier celui de Charles Baudelaire. Hein, donc,
il est né en 1821. Donc
c'est
en
le
fait,
bicentenaire de sa naissance. J'avoue que je n'avais pas pensé à ça. Et donc, le Daniel Halm a déclamé le magnifique poème Correspondance donc, de Baudelaire, illustré là, curieusement, par une musique d'Astor Piazzolla, dont on fête le centenaire de la naissance. Donc, c'était vraiment une série de...
1621 pour La Fontaine, 1821 pour Baudelaire et 1921 pour Piazzolla. Voilà.
Voilà.
Il manque
1721.
Ouais.
Bon, on va réfléchir.
En fouillant bien, on
doit pouvoir trouver.
Mais du niveau de ces trois créateurs, c'est pas évident d'en trouver. Hein.
Ah non,
voilà, parce que là, on a quand même, en particulier La Fontaine.
C'est certainement un des auteurs français les plus célèbres chez nous, bien sûr, mais aussi à l'étranger, je pense.
Oui, absolument. Et tout ça s'est achevé encore par une autre célébration, alors très personnelle, d'après ce qu'a dit Clara Tchernat et ce qu'a dit Thierry Huillier. C'était l'anniversaire de leur rencontre, en quelque sorte.
Ah oui, c'était même plus que ça. C'était l'anniversaire de leur premier baiser sur la place rouge. On a su.
Et donc, elle a joué, accompagnée par son époux, La Méditation de Thaïs. Bon, qui est...
Il est très mollo, là.
Ah oui. Les souvenirs qui reviennent très
Voilà,
très
donc c'était, bah, c'était un beau lancement pour la saison de Musique en Dialogue au Carmélite 2021. Voici une des fables de La Fontaine, choisie par Thierry Huillier pour ses compositions, Les Grenouilles qui demandent un roi, avec Clara Tchernat au violon et Thierry Huillier au piano.
Se lassant de l'état démocratique, par leur clameur firent tant que Jupin les soumit au pouvoir monarchique. Il leur tomba du ciel un roi tout pacifique. Fort peureuse, s'alla cacher sous les eaux, dans les joncs, dans les roseaux, dans les trous du marécage, sans oser de longtemps regarder au visage celui qu'elle croyait être un géant nouveau.
Et Les grenouilles qui demandent un roi, composition de Thierry Huillet sur une fable de La Fontaine avec Clara Cernat au violon et Thierry Huillet au piano et à la lecture. C'est sa voix qu'on entend dans cet extrait de leur CD consacré aux 7 fables que nous avons pu découvrir dimanche dernier à la chapelle des Carmélites. Notez que le concert suivant de musique en dialogue aux Carmélites a lieu dimanche 18 juillet à 16h. L'ensemble Faenza va y proposer son bestiaire baroque. Autre concert il y a quelques jours, mardi 15 juin au Temple du Salin, l'ensemble Masque donnait un programme curieusement intitulé Bach burlesque entre bière et café pour le compte de la saison des arts renaissants. Alors Serge, vous y étiez encore. Qu'est-ce qu'il y avait au menu entre bière et café? Du Bach bien sûr, mais sur 2 générations.
Oui, sur 2 générations, parce qu'il y avait une suite de Wilhelm Friedemann.
L'aîné turbulent.
Oui, l'aîné, le Bach de Halle, je crois qu'on l'appelle. Alors, je parle de Bach en présence de Michel Brun. J'avoue que...
Il faut faire attention à ce qu'on dit.
Je parle sous son contrôle.
Pas de problème. J'ai moi-même abusé du vin et de la bière et du café avant de venir, donc...
Allons-y. Donc, il y avait... Enfin, l'essentiel du programme, c'était les 2 des cantates profanes. Bon, on sait qu'il a composé pas mal de cantates profanes, beaucoup moins que des cantates sacrées, évidemment. Et c'était la cantate des paysans et la cantate du café, donc... La première cantate, la cantate des paysans, eh ben elle est supposée se passer dans un bar ou dans une auberge, en quelque sorte, où on sert de la bière, on sert beaucoup de bière. Alors que la cantate du café, on a compris. Et puis, il y avait donc ces 2 cantates et puis 2 œuvres donc, instrumentales avec la suite en sol mineur de Wilhelm Friedemann et puis le tout débuté par l'ouverture, suite en ré majeur, la BWV 1068, bien connue, avec son fameux aria qui est devenu célébrissime. Mais alors là, cette ouverture de Johann Sebastian, là, elle était jouée sans tambour ni trompette, puisqu'elle n'était jouée que par les cordes.
Oui, c'est la première version. Alors c'est intéressant parce que le compositeur invité, c'est Wilhelm Friedemann, et semblerait-il, c'est Wilhelm Friedemann qui a rajouté trompette et percussion pour donner à cette suite l'aspect qu'on lui connaît à l'heure actuelle. Mais la première version de Jean-Sébastien Bach, il n'y avait effectivement que les cordes.
C'était la version d'origine.
Donc c'était la version d'origine avec une belle interprétation bien soutenue, notamment le fameux aria Alan et pas Alangui. Donc j'ai bien aimé. Et donc ensuite c'était la cantate des paysans avec ce marivaudage un peu léger, avec même des petits dialogues c'est érotique, hein.
Mais tout à fait.
Entre une jeune coquette qui était chantée ici par la soprano Maëlys de Villoutrès, qui vraiment incarne son personnage. Hein. Alors que la basse qui chante le rôle du paysan, c'était Marcel Raschke qui s'exprime bien dans le fameux air où il y a un rire, hein, il y a un ha 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 qui se répète, avec un flûtiste, hein, le flûtiste flûte traversière Serge Saïta, donc, qui intervenait ici 2 fois. Voilà. Et puis ensuite, on a eu droit à cette fameuse suite de Wilhelm Friedemann. Alors, elle a d'abord été attribuée à Johann Sebastian. Mais quand on l'écoute, on se demande, mais comment a-t-on pu l'attribuer à Johann? Le style n'a rien à voir. C'est presque pré-romantique, la musique de Wilhelm Friedemann. J'espère que je ne dis pas de bêtises.
Au contraire, c'est une vérité. De même d'ailleurs que celle de son frère, Carl-Philippe Emmanuel, ont écrit dans des styles complètement différents de leur père.
Pour Carl-Philippe Emmanuel, c'est évident.
Mais Wilhelm Friedemann aussi. Hein,
oui, alors je connais moins bien.
Très fantaisiste, très... Oui, tout à fait.
Ah, il était lui-même.
Oui. Donc, pour ma part, c'était une découverte que j'ai bien appréciée. Et enfin, le concert s'est achevé sur la cantate du café, BWV 211, donc, qui est une espèce de commentaire satirique sur l'addiction au café. Et donc c'est un père, la basse, chanté par la basse, qui essaie de dissuader sa fille de boire du café tout au long de la journée. Et alors elle résiste beaucoup jusqu'à ce qu'il lui propose d'épouser un homme, donc, et là, elle est d'accord d'échanger le café contre un homme. C'est pas très, très clair tout ça. Hein.
Non, il y a même d'ailleurs là aussi une réplique très coquine, alors qu'on pense que le livret est de Jean-Sébastien Bach, en réalité, et à un moment donné, elle chante quand même « Que m'importe le café, pourvu que tous les soirs, je retrouve les bras d'un amant vigoureux. » Donc, je pense que tout ça nous montre que Jean-Sébastien Bach était tout sauf un personnage tristounet.
Je me demandais si Balzac connaissait cette cantate, le café. Ça lui aurait peut-être évité son addiction au café qui a fini par le tuer.
Oui. Mais alors, effectivement, hein, Bach, donc le très sérieux cantor de Leipzig, disait quelquefois à ses fils « Allons écouter les chansonnettes de Dresde ».
Oui, mais ça, on avait parlé, Michel, lors des émissions qu'on avait consacrées à l'œuvre de Jean-Sébastien Bach, de cet aspect un peu méconnu, il est vrai, ou négligé de Jean-Sébastien Bach, qui était un très bon vivant.
Voilà, tout à fait. Alors ça, c'est de la musique, en plus, qui était faite pour la consommation, si je puis dire, privée, c'est-à-dire faite pour être jouée dans la maison, hein, dans le cadre domestique.
En famille.
Et donc, en famille. Et donc là, on se lâchait. C'était les Bach étaient des gens qui aimaient beaucoup rigoler.
Bien manger, bien boire.
Exactement. Et alors, pour cette cantate, aux deux interprètes que j'ai cités, Maïlys de Villoutré et Marcel Raschke, s'ajoutait un ténor qui ne chante que deux fois, au début et à la fin, et c'était Paul Crémazy, un ténor bien connu chez nous, donc qui jouait en quelque sorte le rôle du narrateur et qui fait taire tout le monde au début pour qu'enfin la musique puisse commencer.
Voilà l'ensemble Masque, fondé par le claveciniste et organiste Olivier Fortin, spécialisé beaucoup dans la musique baroque et entre autres dans celle de Jean-Sébastien Bach. Je n'ai pas d'extrait des œuvres jouées par l'ensemble Masque mardi au Temple du Salin, mais pour vous le faire entendre dans du Jean-Sébastien Bach, je vous propose d'écouter leur version du célèbre concerto pour clavecin en fa mineur BWV 1056, Le Largo. L'ensemble Masque dans une interprétation très belle du Largo du concerto pour clavecin en fa mineur BWV 1056 de Jean-Sébastien Bach. Et concernant les Arts Renaissance, je signale que leur saison 21-22 sera largement constituée de concerts n'ayant pu avoir lieu en 2020-2021 en raison de la crise sanitaire, comme vous le savez. Ils ont donc été reportés la saison suivante. Je vous invite à consulter le site web de l'association pour en savoir plus, www.art-renaissance.fr. C'est terminé pour cette première partie retour arrière. Quelques petites secondes de pause avant de nous retrouver. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
Nous sommes de retour à l'antenne, Serge Chausier et moi, en compagnie de Michel Brun, fondateur et directeur artistique de l'ensemble baroque de Toulouse et du festival Passe-ton-Bac d'abord, ne l'oublions pas, et invité d'honneur de cette émission pour la parution très prochaine du nouveau CD de l'ensemble baroque, un CD que vous avez intitulé Vivaldi entre ombre et lumière. Alors je confirme que ce CD est entièrement consacré à des œuvres de Vivaldi, que nous allons évoquer avec vous dans quelques instants. Cela étant précisé, Vivaldi entre ombre et lumière, il va falloir nous donner quelques explications. Ce serait une sorte de disque en clair-obscur ?
Eh ben voilà, ça y est, ben c'est plus la peine, j'ai plus rien à dire.
Ah oui, ben va falloir développer quand même. Non,
c'est une des raisons, évidemment. Il y en a plusieurs. En réalité, ben voilà, peut-être la première, la toute première, c'est qu'évidemment, il y a la lumière des ombres très connue de Vivaldi. Alors, ne figure pas sur ce disque probablement ce qui est l'œuvre la plus connue, les quatre saisons, mais par contre, plusieurs qui sont très connues, comme le Stabat Mater, par exemple, et des œuvres qui sont restées dans l'ombre, on va dire. Alors, c'est peut-être assez normal, parce que Vivaldi ayant énormément composé, on ne peut pas tout connaître, mais il y a toute une partie de sa production, alors qu'il commence seulement maintenant à émerger, en particulier ses opéras. Voilà, il a écrit beaucoup d'opéras, on ne le sait que peu, et ses opéras, finalement, n'arrivent pas véritablement à trouver leur public au XXIe siècle, pour des raisons qui sont probablement d'ailleurs... il y a des vraies raisons, vous allez peut-être le remarquer au cours de ce temps. Vraiment, défendre Vivaldi, que je trouve un compositeur absolument passionnant et beaucoup plus intéressant que l'aspect un peu lisse qu'on en voit parfois, ne le laisserait deviner. Mais par contre, il faut reconnaître que ses opéras, qui sont magnifiquement écrits dans les détails, manquent probablement d'un parcours...
Une dramaturgie
forte, voilà. Et donc, il n'y a pas cette tension qu'on suit mettre d'autres compositeurs du temps, comme Handel, par exemple, qui était beaucoup plus fort au niveau de la... déroulement dramatique des œuvres. Mais c'est des pièces, ces opéras qui sont plein de perles, littéralement. Évidemment, il n'y a aucune raison que ce soit différent, puisqu'il savait écrire magnifiquement pour la voix et magnifiquement pour l'orchestre qui l'accompagnait. Voilà. Donc c'était ça, une des idées. Et effectivement, c'est des œuvres de caractère très très différentes. La lumière absolue de certaines de ses œuvres, comme par exemple le concerto Il Gardellino, le Chardonneret, qui chante à tue-tête le printemps du haut de sa branche, et la Symphonia du Saint-Sépulcre, par exemple, qui est une œuvre d'une profondeur et d'une gravité, sans concession aucune, d'ailleurs, d'une richesse d'écriture absolument étonnante, mais dans la discrétion. Voilà, donc des oppositions comme ça, comme on peut le constater, effectivement, dans les tableaux d'époque du Canaletto.
Oui, peintre vénitien. Vivaldi était vénitien lui-même.
Tout à fait. Peintre qui a beaucoup peint les canaux de Venise, où on voit ces raies de lumière comme ça, et en même temps, cette ombre qui vient comme ça assombrir brusquement le paysage. Et donc, oui, un hommage à ces deux opposés, on va dire, de Vivaldi.
Quoi. Et puis, la vie de Vivaldi elle-même aussi était faite de lumière et d'ombre.
Absolument. Alors là, c'est une chose. Alors, je vais le dire très modestement, lorsque j'ai eu à me pencher davantage sur Vivaldi, et en particulier pour écrire la brochure de ce CD, donc, j'ai découvert quelque chose, je l'avoue. Hein, pour moi, Vivaldi, c'était, au fond, finalement, un homme assez banal. Et en réalité, il a eu une vie absolument incroyable. Et je le dis d'ailleurs dans cette brochure, j'aurais aimé que, comme d'autres grands aventuriers, parce que c'est un véritable aventurier de son temps, et de sa nationalité.
On pense à Casanova.
Voilà, bien sûr. J'aurais aimé qu'il prenne la plume pour raconter sa vie, parce que sa vie est absolument inouïe. Figurez-vous que ce monsieur, donc pour en citer qu'un exemple, était donc prêtre, puisqu'il a été ordonné prêtre dans sa jeunesse.
Prêtre roux,
absolument, parce qu'il était sa chevelure était, paraît-il, d'un roux flamboyant, mais qu'en même temps, tout en portant soutane et en tenant son bréviaire à la main, il était accompagné dans ses déplacements par une cohorte de femmes, toutes plus belles les unes que les autres. Voilà.
Ah, et donc, on ne sait pas,
il y a vraiment ambiguïté, c'est-à-dire qu'on pourrait dire que c'était tout simplement un dépravé, etc. Mais on ne sait pas. Lui disait, alors il a donc cessé, comment dirais-je, de dire la messe, arguant de difficultés respiratoires, et on ne sait pas non plus si c'est vrai, s'il n'en faisait pas un petit peu, parce que quand on regarde sa carrière, il a eu une activité absolument démentielle, quoi. Il était en même temps impresario. Alors impresario, pour nous, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais impresario, à l'époque, il a donc tenu un théâtre, hein. Il était directeur d'un théâtre, mais c'était inouï, il fallait en même temps gérer l'argent, bien sûr, avec tout ce que ça peut comporter à Venise à cette époque-là, c'était incroyable, les dessous de table, les choses pas claires, et puis composer une saison et tout ça, voilà. Et donc, lui disait, mais ces femmes étaient les seules qui pouvaient me soulager de mes maux. Voilà.
Oh là là, on comprend ce qu'on veut.
Voilà, on comprend ce qu'on veut. Donc un personnage incroyablement riche, avec une vie incroyablement aventureuse, et comme souvent d'ailleurs, effectivement,
il y a des pardons, il y a du mystère aussi apparemment.
Voilà, il y a du mystère absolument, il y a beaucoup de trous dans sa biographie absolument, vivant quand même chez ses parents jusqu'à leur mort. Et son père est mort à 80 ans, donc Vivaldi a passé l'essentiel de sa vie d'homme.
Oui, puisqu'il est mort à 63 ans.
Voilà, donc il a passé l'essentiel de sa vie d'homme chez son père, chez ses parents. Tout ça est incroyable. Et comme souvent chez ces aventuriers flamboyants, c'est le cas de Casanova, qui est le...
Et de Da Ponte aussi.
Et de Da Ponte, une fin de vie très triste,
dramatique,
voilà, une espèce d'amertume, parce que sa musique est passée de mode, l'opéra qu'il a pratiqué est passé de mode, et il tente un dernier succès à Vienne. Il déménage une dernière fois et il tente un dernier succès qui ne verra pas le jour. En réalité, son opéra sera composé et ne sera même pas joué. Donc, c'est une vie extraordinaire que celle de Vivaldi.
Il faut s'intéresser à la vie de Vivaldi. Il y a donc dans ce CD des œuvres très connues du prêtre roux, entre autres son fameux Stabat Mater. Je propose qu'on en écoute un extrait très connu lui aussi, le Stabat Mater, interprété par Caroline Champy, accompagné par l'ensemble baroque de Toulouse. Stabat Mater Dolorosa, interprété par Caroline Champy, accompagnée par l'ensemble baroque de Toulouse. Un extrait de votre CD Vivaldi entre ombre et lumière, Michel Brun. Je vais vous demander de dire un mot tout de même sur Caroline Champy, une chanteuse avec qui vous collaborez maintenant depuis de longues années.
Ah oui, ben on peut dire, si vous voulez, bon, on a cultivé cet esprit-là à l'ensemble. Ça n'est pas toujours possible avec les solistes vocaux, parce que leur carrière les amène évidemment souvent à s'absenter. Mais on essaye quand même de cultiver cela, et on l'a particulièrement cultivé avec Caroline, donc un esprit de troupe, on va dire, voilà, comme à l'ancienne. C'est-à-dire des chanteurs qui sont attachés, alors c'était essentiellement attaché à un théâtre en réalité, ce qui était le cas d'ailleurs à l'époque de Vivaldi,
oui.
Ce qui n'était pas toujours très facile pour eux, parce qu'on a cette histoire de l'impresario qui a précédé donc Vivaldi à la direction de son théâtre, qui avait rossé et jeté dans le canal une soprano qui se plaignait qu'elle n'était pas assez payée. Voilà, donc vous voyez que c'était pas toujours facile d'être chanteuse à l'époque. Quand je vous disais que c'était des vies aventureuses, vraiment on en a des exemples. C'est pas le cas de Caroline, on l'a pas jeté dans le canal du Midi, et ça fait des années qu'on travaille avec elle. Bon voilà, c'est une voix exceptionnelle, c'est une personne qui vit la musique de manière incroyablement intense et ça se ressent en scène particulièrement. Voilà, et je crois que bon, toutes les personnes qui l'ont vu chanter la Passion selon saint Matthieu il y a quelques années à la Lohengrin s'en souviennent dans le fameux Air Barmedich, donc cet air pour alto de Bach. Elle vit la musique très intensément et comme la musique de Vivaldi est une musique qui demande ça, c'est-à-dire pour moi effectivement la grande particularité de la musique italienne et de la musique de Vivaldi, bien entendu de ce fait-là, c'est qu'elle a besoin des interprètes. C'est pas que moi qui le dis, c'est Quantz déjà à l'époque, donc c'était Quantz qui était un compositeur et un théoricien de l'époque et un flûtiste brillant de l'époque, qui le disait, il disait la musique française doit être jouée comme elle est écrite. Tout écrit. Mais la musique italienne, ça n'est qu'un schéma, une sorte de canevas sur lequel il faut que les musiciens viennent rajouter leur propre individualité, leur propre personnalité.
Leur propre motif.
Leur propre motif, voilà, absolument. Et c'est pour ça, je pense que souvent, on a pu considérer que la musique de Vivaldi était un petit peu standard. Bon, il y a cette phrase de Stravinsky disant « Mais non, il n'a pas écrit 300 concertos, Vivaldi, il a écrit 300 fois le même concerto. » Et c'est stupide. Par exemple, ce début, avec ses notes répétées de l'orchestre, on peut imaginer de le faire un peu banalement. Et puis, on peut aussi essayer de donner à chacune de ces notes le poids qui est le poids de ces clous enfoncés dans la croix et qui viennent crucifier le Christ au pied duquel se trouve donc sa mère. Et donc tout ça, c'est l'interprète qui doit aller chercher dans cette musique. Cette musique n'est jamais donnée en réalité. Hein.
Oui, et puis si un génie comme Bach s'est intéressé à la musique de Vivaldi, ça ne peut pas être celle d'un compositeur du dimanche.
Alors, je suis complètement d'accord.
Il y a forcément du génie chez
Vivaldi. C'est la meilleure preuve que Vivaldi est un compositeur de génie. Il s'est emparé effectivement de certains de ses concertos, donc pour différents instruments, pour violon en particulier. Il les a transcrits pour orgue, et donc c'est bien la preuve de l'hommage qu'il voulait leur rendre et qu'il rendait à Vivaldi, alors qu'ils étaient pourtant éloignés partout.
Mais contemporains,
mais éloignés géographiquement, culturellement,
etc. On pourrait dire aujourd'hui concurrents, mais bon, évidemment, cette notion-là n'existait pas à l'époque, en tout cas pas entre ces deux compositeurs. Autre œuvre célèbre de Vivaldi que l'on trouve sur votre CD, le concerto pour flûte Il Gardellino, le Chardonneret que vous avez évoqué tout à l'heure. Nous en écoutons tout de suite un extrait, le premier mouvement Allegro, interprété comme il se doit par l'ensemble baroque de Toulouse. Concerto pour flûte, Il Gardellino, extrait du premier mouvement Allegro, interprété par l'ensemble baroque de Toulouse sur le CD Vivaldi en trombe et lumière. Le flûtiste que l'on entend ici, c'est vous, Michel Brun. Alors, ce concerto pour flûte, Il Gardellino, est-ce que c'est une des œuvres géniales du compositeur vénitien?
Alors, bon, ça fait peut-être pas partie des œuvres les plus géniales, dans lesquelles il y a le plus d'inventivité. Encore que, moi, ce qui me scotche à chaque fois quand j'entends la musique de Vivaldi, c'est comme il comprenait magnifiquement chaque instrument. Là, il écrit pour la flûte d'une manière absolument inouïe, comme s'il avait été lui-même flûtiste. Alors, il y a probablement une explication à ça. On sait que, en particulier au début de sa vie, il dirigeait ce qu'on appelait donc à Venise à l'époque un ospedale. Et un ospedale, c'était un endroit où on recueillait des jeunes filles orphelines ou abandonnées par leur famille ou dont les parents avaient disparu. On élevait ces jeunes filles, donc. Alors, il y avait des sœurs qui les élevaient, hein, et elles faisaient de la musique à très 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 haut niveau. Et donc, il y avait là, parmi probablement les plus grands interprètes disponibles, et Vivaldi a dirigé cet ospedale, et il avait à sa disposition donc des instrumentistes hors normes dans tous les instruments. Et c'est absolument inouï parce qu'on a l'impression qu'il connaît à la perfection chaque instrument. Et je pense que c'est ce laboratoire qu'il avait qui lui a permis de faire ça. Il faut savoir que le deuxième instrument pour lequel Vivaldi a écrit le plus de concertos, c'est le basson.
Voilà. Après le violon ?
Après le violon. Le premier, c'est le violon, dont il jouait lui-même magnifiquement. Virtuose du violon. Ce qu'on dit sur lui, les chroniques, ce qu'elles disent à l'époque, ça fait énormément penser à Paganini. On parlait tout à l'heure du Paganini de la harpe, mais c'était une sorte de Paganini, de prémonition de Paganini. C'était un virtuose, paraît-il. Et il a écrit 39 concertos pour basson. La seule explication qu'on puisse trouver, c'est qu'il y avait probablement une de ces jeunes filles qui avait appris le basson. Qui devait être une bassoniste exceptionnelle. Voilà. Et d'ailleurs, je dois dire, je me permets de glisser ça, qu'on a en projet, avec l'ensemble baroque de Toulouse, de jouer joué ses 39 concertos pour basson en un week-end avec un soliste absolument exceptionnel qui est Laurent Le Chenadec.
J'allais vous dire, ça doit être avec Laurent Le Chenadec.
Il n'y a pas d'autre soliste pour entreprendre un parcours aussi fou. Donc on se donne environ 3 ans pour monter l'ensemble de ces 39 concertos pour basson et les faire connaître à Toulouse, parce que c'est des œuvres vraiment très très rarement jouées. Là, elles font partie de l'ombre de la musique de Vivaldi, pour les faire connaître en un seul week-end, ce qui sera une véritable performance pour les musiciens et en particulier pour le soliste.
Alors, vous venez de rappeler à quel point Vivaldi pouvait être prolifique dans les œuvres qu'il écrivait pour certains instruments, le violon et donc le basson. Et puis, il a été prolifique aussi dans un autre domaine, l'opéra. La légende raconte qu'il en aurait composé près d'une centaine, je crois que c'est 94, mais bon, on n'en sait rien. Il y en a 50 qui ont été identifiés, il y en a une vingtaine qui ont été conservés. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont rarement joués pour la plupart. Il y a quelques exceptions, évidemment. Vous avez retenu quelques airs d'opéra sur votre CD, sur lesquels avez-vous porté votre choix?
Alors, déjà, de toute façon, des airs d'opéra qui convenaient pour la voix de mezzo-soprano,
donc
qui est celle de Caroline Champy. Voilà, on avait décidé que ce serait un texte avec une seule voix, mais c'est pas tout à fait par hasard. C'est d'abord, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que Caroline Champy fait vraiment partie de l'ensemble de Toulouse, mais c'est aussi la voix à laquelle probablement Vivaldi a confié ses plus beaux arias. Et pour quelle raison? Eh bien, il se trouve qu'il a eu une mezzo-soprano qui s'appelait Anna Giro, très 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 proche, mais sans que l'on puisse dire, on ne sait pas exactement s'ils étaient amants. Il était donc encore prêtre, puisqu'il n'a pas été défroqué, et il a accompagné la carrière naissante de cette jeune femme, dont on a dit d'ailleurs, les critiques étaient souvent assez acerbes, on disait qu'elle jouait mieux la comédie qu'elle ne chantait. Chez Caroline, je crois qu'on peut dire que les deux se situent au même niveau. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que du coup, comme il y a eu ce compagnonnage, on va dire comme ça, sur plusieurs années, il a confié, donc, comme il voulait porter sa carrière, il a confié à cette voix de mezzo-soprano certains de ses plus beaux arias. Donc c'était déjà un premier terme de choix.
Il y en a 5 donc sur votre
c'est
CD.
Ça.
Bon, il y a les plus connus, Orlando Furioso, Bajazet.
Bien sûr.
Il y en a d'autres.
Il y a d'autres opéras, mais là j'avoue que j'ai un petit creux sur. J'ai pas.
Eh bien, ce sera sur le CD pour ceux qui veulent vraiment s'y intéresser de très près. Voici un premier extrait d'aria d'opéra de Vivaldi, Soldate mio dolce amore, que l'on entend dans Orlando Furioso. Il est interprété bien sûr par Caroline Champy, accompagnée par l'ensemble baroque de Toulouse. Soldate mio dolce amore, aria célèbre d'Orlando Furioso, opéra d'Antonio Vivaldi, interprété par Caroline Champy, accompagnée par l'ensemble baroque de Toulouse. Un des airs que l'on peut entendre sur votre CD Vivaldi entre ombre et lumière. C'est beau et c'est connu, mais est-ce que c'est génial ça, Michel? Oui, c'est génial.
Ça, là, vraiment, je crois qu'on est par contre, je disais tout à l'heure sur le chardonneret. Alors, le mouvement lent du chardonneret est absolument fabuleux. C'est une sorte de mélodie un petit peu triste comme ça, qui figure cet oiseau peut-être un petit peu mélancolique. Mais là, on est vraiment au sommet sommet de l'art de Vivaldi. Hein. On est dans un moment où donc la personne représentée par cette voix de contralto a été enchantée au sens fort du mot, c'est-à-dire a subi un enchantement. Et seul toi peut me conduire aux portes de l'amour, etc. Soldaté. Et donc oui, c'est moi pour moi là, on est vraiment dans de la musique absolument géniale, quoi. Puis alors cette utilisation de la flûte, là cette fois-ci, elle est beaucoup moins évidente que dans le concerto parce que c'est une flûte plus rêveuse. Voilà, il y a une très grande virtuosité, mais pas faite pour briller, qui est faite pour figurer justement cet imaginaire. Il y a une inventivité dans cette écriture que je trouve merveilleuse, vraiment.
Tout de suite, un autre aria de Vivaldi célèbre lui aussi, Sposa son disprezzata, extrait de l'opéra Bajazette, et c'est encore Caroline Champy qui le chante, accompagnée par l'ensemble baroque de Toulouse. Sposa son disprezzata, aria extrait de l'opéra Bajazette de Vivaldi, chanté par Caroline Champy, accompagnée par l'ensemble baroque de Toulouse. Un extrait que l'on trouve aussi sur votre CD Vivaldi entre ombre et lumière. Dernière œuvre présente sur ce CD rapidement, une pièce religieuse, la Symphonia du Saint-Sépulcre. Elle est là parce qu'elle est belle, et elle est là parce qu'elle montre une autre facette de Vivaldi.
Voilà, une autre facette. Alors c'est une œuvre d'une audace absolument incroyable. Une fois où on l'a joué à un concert, il y avait un ami qui est compositeur contemporain et qui m'a dit, quand vous avez commencé, j'ai cru que c'était de la musique contemporaine. Voilà, les deux premières notes, c'est deux notes très longues, et c'est deux notes qui sont à une seconde mineure d'intervalle, c'est-à-dire qui frottent horriblement l'une avec l'autre, et tout le premier mouvement est construit sur des frottements comme ça, ce qu'on appelle des dissonances entre les notes que Vivaldi fait résonner de manière pour montrer la tristesse, disons, hein, de ce moment du Saint-Sépulcre. Alors, on entend dans le début de cet aria, qui a dit quand même que Vivaldi écrivait toujours la même chose. Enfin, l'introduction avant l'entrée de la voix de ce dernier air, là, c'est inouï, la tension dramatique qu'il réussit à mettre.
C'est ce que je disais, là, il y en a de la dramaturgie,
voilà,
vraiment
absolument.
Clairement.
Et donc, c'est ça qu'on a voulu défendre, hein, dans ce CD, ça n'est pas du tout un compositeur banal avec une manière d'écrire un petit peu
répétitive, standardisée,
absolument.
Voilà pour ce CD Vivaldi entre ombre et lumière. Avant de conclure cette émission, je voudrais qu'on parle du livre que vous avez consacré à votre compositeur de chevet, à celui que vous placez au-dessus de tous les autres, Jean-Sébastien Bach. Il se présente sous la forme d'entretien avec Yves Le Pestipon, professeur de lettres bien connu dans la Ville Rose et président de l'Académie savante des sciences, arts et belles-lettres de Toulouse. Vous avez donné pour titre à ce livre « Selon Bach ». Qu'avez-vous voulu transmettre dans ces entretiens au-delà de votre passion pour Jean-Sébastien Bach et sa musique bien connue?
Alors, je crois que j'ai voulu transmettre deux choses. La première de ces deux choses, c'est revenir un petit peu sur l'histoire de l'ensemble baroque de Toulouse et des projets qu'on a mis en œuvre pour rendre la musique de Bach accessible à tous. Voilà. Je pense donc essentiellement à deux de ces projets, que sont tout d'abord Cantate sans filet, puis Passe ton Bach d'abord. C'est-à-dire cette volonté de montrer que Bach est un compositeur que tout le monde peut apprécier, qui peut avoir un côté très quotidien.
Que Bach est parmi nous.
Que Bach est parmi nous, voilà. Et donc, ça m'a amené à parler un petit peu de ma formation personnelle, puisque c'est cette formation personnelle un tout petit peu particulière. J'ai pas commencé la musique tôt, je ne suis pas un enfant surdoué, je ne fais pas partie d'une famille de musiciens qui m'ont tracé un chemin. Et donc, c'est cette rencontre tardive à l'adolescence avec la musique qui m'a littéralement transporté qui probablement m'a amené à avoir envie de partager cette découverte, cette illumination de la musique auprès du plus grand nombre. Et puis l'autre chose, c'est que lorsque nous avons donné la Passion selon saint Matthieu, donc il y a quelques années, à la Halle au Grain, en conclusion justement de Passe ton bac d'abord, je crois que c'était en 2017, eh bien, lorsque j'ai eu à travailler cette œuvre en tant que chef d'orchestre, je n'ai pas compris comment elle fonctionnait, je n'ai pas compris comment Bach l'avait écrite, parce qu'il ne l'a pas du tout écrite sur les mêmes critères que la majorité de ses compositions. Et donc ça m'a amené à me pencher de manière très profonde sur l'écriture de cette œuvre, et j'y ai trouvé un certain nombre de ce que j'appellerais des secrets que Bach a glissé dans cette musique.
Des secrets d'écriture, comme, de composition.
Voilà, de composition, comme des bouteilles au fond qu'il aurait jetées à la mer, et que nous aurions eu la chance à l'ensemble baroque, au cours de ce travail sur cette œuvre, de retrouver des messages qui nous seraient arrivés de la part de Bach, un petit salut comme ça, l'air de dire voilà, ben là j'ai voulu dire ça, là j'ai voulu dire ça. J'en dirai pas plus parce que sans ça personne ne va acheter mon livre. Donc,
et où peut-on l'acheter?
Alors on peut l'acheter essentiellement à Ombre Blanche, puisqu'il est édité par l'édition d'Ombre Blanche. On ne sait pas suffisamment que Ombre Blanche a une édition qui s'appelle l'édition Rue des Gestes, et donc on peut le trouver à Ombre Blanche.
Nous sommes arrivés au terme de ce numéro que je vais conclure en remerciant d'abord ces deux invités, Serge Chausier et Michel Brun. Vous savez à quel point j'ai plaisir à vous recevoir à Mélomanie tous les deux, et je sais que ce plaisir est partagé par ceux qui écoutent régulièrement cette émission, et ils sont nombreux. Je rappelle donc la parution très prochaine du CD Vivaldi entre ombre et lumière, enregistré par l'ensemble baroque de Toulouse. Vous avez pu en entendre plusieurs extraits, et je ne doute pas qu'il vous ait donné envie de découvrir l'intégralité de ce disque. Vous pouvez vous le procurer a priori à partir du site de l'ensemble baroque de Toulouse.
Tout à fait.
www.baroquetoulouse.com. Je vous conseille également la lecture de Selon Bach, le livre d'entretien entre Michel Brun et Yves Le Pestipon, qui apporte de nouveaux éclairages sur la musique de Jean-Sébastien Bach. Allez à la librairie Ombre Blanche pour vous le procurer. Je signale enfin que les représentations d'Electra, le magnifique opéra de Richard Strauss, commencent au Théâtre du Capitole vendredi 25 juin à 20h. Il va y en avoir 5 en tout, les autres étant programmés les 27 et 29 juin, ainsi que les 2 et 4 juillet. Renseignements, réservations et achats des billets en ligne sur le site www.théâtreducapitole.fr. Merci également à Christophe Aubry pour la réalisation de ce numéro, dont le podcast est disponible et téléchargeable dès aujourd'hui, comme d'habitude, sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci de votre écoute fidèle, bon week-end et excellente semaine musicale à tous.